Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui par l'ami Chris. Salut Chris.
Salut RM, salut peuple de Catch Up. Bienvenue voilà. Dans la review la plus chaude de l'année.
Ah oui, chaud, très très chaud. La preuve, la canicule a laissé sur le carreau tous les vieux meubles qui étaient venus la veille à Raw. À SmackDown, on n'a que de la viande fraîche, du petit jeune, du rookie, du trentenaire dans la force de l'âge. La preuve avec Xavier Woods et Big E qui étaient aux commentaires pour une bonne partie de la soirée, mais pas jusqu'au bout. Au début, j'ai cru qu'ils allaient faire toute la soirée. Mais non, ouais, c'était un peu étrange, cette table des commentateurs. De toute façon, il y avait David Otunga. J'ai cru comprendre que le papa de Byron est décédé et que du coup, c'est pour ça qu'il n'était pas là.
Ouais.
Michael Corey Graves était là aussi.
Corey Graves, ouais. Je ne sais pas pourquoi il était absent, Corey Graves.
Remplacé par Michael Cole.
Ils se sont mis trop cher hier avec Stone Cold, certainement après le show. Vu comment ils étaient déjà grave bourrés pendant le main event, donc je pense que...
Il n'y a pas eu des inondations là, dans la ville là, avec tous les fûts de bière qu'ils ont déversés, à mon avis
Avec la light, là, la binouse dégueulasse là, de américaine. Là.
Ouais, mais c'était la bière de Stone Cold. Hein. Je ne sais pas si vous avez parlé lors de votre review de Monday Night Raw, mais je crois que c'était la bière de Stone Cold. Il a sa propre brasserie.
Ah, carrément. Ah bah non, on n'a pas relevé ce détail, hein, tu vois.
Il a sa propre brasserie, je crois que ça s'appelle... Cold Skull ou Bull Skull ou un truc comme ça, genre crâne de taureau ou je sais pas quoi.
C'était la casquette qu'il portait alors.
Bah, ça devait être ça, ouais.
Casquette justement avec Skull, je sais pas quoi, et tu vois, j'ai pas en tête, et donc c'était ça, la casquette. Ok, d'accord.
Il fait comme Shawn Michaels, hein, il fait l'auto-promo sur ses casquettes.
Oui, il fait du placement de produits.
J'ai vu des hommes sandwich, hein, nos anciens, nos légendes.
Eh ouais, pas con quand même. Hein.
Faut payer les factures, hein.
Et puis t'as vu, il a dit qu'il prenait exemple sur Catch Up et que dorénavant, il faisait un podcast lui aussi. Quoi. J'ai bien aimé son hommage à notre émission. Quoi.
Eh bah écoute, hein, si on peut aider. Tiens, il y en a un qui est là pour aider, c'est Shane O'Mac. Il arrive sous une nuée de huées. Il accuse Kevin Owens d'utiliser en fait, les médias sociaux, hein, notamment Twitter. C'est Kevin Owens est un grand maître de ce réseau social. Il se cache derrière tout ça, mais qu'il accepte. Il accepte le challenge de Kevin Owens pour un match à SummerSlam à Toronto. Et Toronto, c'est pas n'importe où. Toronto, c'est tout simplement la ville où, il y a un an, Kevin Owens a annoncé qu'il abandonnait, qu'il quitte, comme il l'avait dit. On a un vidéo package de Shane O'Mac. Je t'avoue que je me souviens plus très bien, je me suis pas souvenu beaucoup de pourquoi on en était arrivé là il y a un an. C'est vrai qu'il avait la larme à l'œil, hein, à l'époque, Kevin Owens, ça fait peine à voir.
T'as une défaite face à Seth Rollins.
Ah oui.
À l'époque, il en pouvait plus, il considérait qu'il était pas considéré justement avec Sami Zayn, entre autres. Et voilà, il était un peu en mode dépression, quoi. Hein. Il était un peu sous Xanax à l'époque, je pense, Kevin Owens.
Ouais. Il a des périodes comme ça, il a l'air d'être un petit peu... C'est roller coaster façon Kevin Owens. Hein. Il y a des bonnes périodes et des mauvaises périodes. En ce moment, on est dans une bonne période où en tout cas, il est remonté comme une horloge suisse, le petit Kevin Owens. Puisque... Je ne sais plus où il arrive. Oui, il arrive dans l'intro. Il arrive dans l'intro et donc il veut tout simplement botter le cul de Shane O'Mac. Mais qui ne veut pas botter le cul de Shane O'Mac aujourd'hui? Je le demande, mon bon Chris. Sauf que Shane O'Mac lui dit « Si tu viens me botter le cul maintenant, on annule le match de SummerSlam. » Et d'ailleurs, Kevin Owens dit qu'il était, voilà, il y a un an, effectivement, il était au plus bas, mais qu'aujourd'hui, il est un homme nouveau, l'homme du peuple. Il veut la peau de Shane O'Mac. Et un petit peu plus tard, on a une petite séquence, d'ailleurs, qui nous book le main event, tout simplement. On aura droit à Kevin Owens face à Roman Reigns, donc les deux chouchous de Shane O'Mac, et pas n'importe quelle configuration, puisque Shane O'Mac sera l'annonceur, Drew McIntyre sera l'arbitre, et notre ami Elias sera l'homme, le timekeeper, le gardien du temps pour notre main event. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro pleine d'énergie avec un Kevin Owens retrouvé?
Oui, effectivement, de l'énergie, effectivement. Alors, la veille avec Ringside, j'étais heureux en fait qu'à Raw on n'avait pas vu de McMahon et on n'avait pas vu Shane en particulier. Bon, bah voilà, la SmackDown commence et direct, ça commence direct avec Shane.
Donc, je vous avais manqué.
C'était pas possible de passer un plus de deux shows consécutifs sans Shane. Donc voilà. Donc j'ai trouvé plutôt sympa en fait l'interaction avec le public de Floride qui a bien chambré, qui lui a chanté du You Can't Wrestle, qui lui a chanté du CM Punk, qui lui a chanté un peu tout ce qui lui passait par la tête quoi, au public. Donc c'était plutôt sympa. Et donc du coup, ça faisait. Alors. Truc important quand même, c'est que Shane a quand même signalé que le match face à Kevin Owens, c'est si Kevin perd, il devra quitter la WWE. Donc il met dans la balance un peu la carrière de KO quoi. Donc voilà, encore le fait du prince, hein, encore le fait du fils d'eux quoi. C'est un vrai scandale, en sérieux quoi. La WWE vraiment, je ne comprends pas ce népotisme. Mais et voilà. Et du coup, alors écoute, j'ai été étonné par le booking du match. Puisqu'en fait, sur le coup, j'ai été surpris qu'il annonce Roman Reigns. J'ai dit, tiens, deux face. Ah ouais? Et puis surtout que là, KO, il est vraiment en mode face en ce moment. Hein. Il peut pas être plus au taquet que ça en termes de baby face. Donc écoute, bon, ça lançait plutôt pas trop mal le show. Je reste quand même toujours vachement dubitatif sur Shane McMahon. Je suis vraiment très, très étonné du traitement, en fait, qui est donné avec lui quoi. C'est assez bizarre. Alors de ce que j'ai lu, il a vraiment aucun pouvoir en termes créatifs de ce qui se dit partout. En fait, il a un contrat de talent en fait. Hein. Il a un contrat de catcheur. Hein. Il a un simple contrat de catcheur chez McMahon apparemment. Donc j'imagine qu'il respecte ses lignes quoi, qu'il respecte son texte. Et puis c'est vers ce chemin-là que l'emmène la WWE. Et je vais dire un truc énorme de ma part, mais pour le coup, j'ai envie de dire que ça marche. Puisque on est presque dans une configuration où Shane O'Mac est quasiment le top heel de la fédération à l'actuelle. T'en penses quoi, Irem, de ça?
Moi, j'en pense que tu as tout à fait raison, mon bon Chris.
Ah ouais?
Là, je pense que la question se pose même pas. Le top heel à l'heure actuelle. Alors, à SmackDown, la question se pose pas du tout, puisqu'en fait, si tu regardes du côté de la title picture, on y reviendra plus tard avec Kofi Kingston, les méchants s'enchaînent, mais aucun ne reste, alors que Shane O'Mac, il est là depuis un bon bout de temps, il occupe du temps d'antenne, il accapare tous les faces, il attire tous les faces à lui. C'est ça un top heel, hein, c'est celui qui attire tous les faces à lui et qui prend du temps d'antenne se fait huer à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Donc,
je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Bon, moi je le considère comme un très mauvais catcheur et enfin, j'ai même du mal à lui donner l'appellation de catcheur, mais je reconnais que depuis 2-3 semaines, là, je trouve que ça va mieux. Et ça va tellement mieux qu'il se permet même, pendant d'ailleurs justement le moment où il se fait chambrer par le public, etc., de quasiment rire sous cap, on va dire. Et je trouve qu'il rentre de plus en plus dans ce fameux personnage de top heel et que du coup, c'est pas si mal que ça. Et moi qui étais vraiment à la limite vraiment de couper les shows à force de le voir tellement il m'insupportait, je trouve que ça va mieux.
Ouais, il fait référence en disant, puisque les spectateurs en ce moment-là, dans la salle, criaient « You can't wrestle », et il fait « Bah oui, mais j'ai battu quand même Roman Reigns » ou un truc comme ça, toi. Il se fait des petites piques, toi, donc il est à fond ce personnage et ça lui va très très bien. Et c'est un super méchant, moi j'aime beaucoup Shane O'Mac. Effectivement, là où c'était chiant, c'était toute la période où on le voyait à Raw et à SmackDown. Il n'y avait juste pas besoin de ça. Mais ça, je pense que c'était pas propre à Shane O'Mac. C'était ce nouveau système de la wildcard qui foutait le bordel de toute façon. Notre méchant d'ailleurs, c'est Shinsuke Nakamura, même si lui, on le voit un petit peu moins souvent. Mais il est là ce soir et il n'est pas seul. Il vient avec Apollo Crews pour un match compétitif entre les deux. Hein, où Nakamura va distribuer... tous ces coups de pied dans la tronche d'Apollo. Apollo Crews, il ne fait pas le figure. Hein. Le match, toi qui aimes bien tenir le compte de la durée des matchs, il me semble que c'était un match qui a duré presque 10 minutes, assez costaud, assez solide, et à la fin, évidemment, le champion remporte la mise, un Kinshasa pour coucher l'ancien membre de la NXT, et Nakamura qui est un petit peu en colère, un petit peu, qui est vraiment un vrai méchant, passage à tabac d'Apollo Crews. Bon, on est un petit peu perdu, il peut-être est... sur la... Ouais.
Shinsuke, il est... moi, je le trouve pas mal hein, en champion intercontinental. Hein.
Il remonte du caractère.
Je trouve qu'il va mieux, là, ces derniers temps, là, où son personnage s'était un peu enterré. Et je trouve que depuis qu'il a repris l'Intercontinental Championship, je trouve que ça va mieux. Et je vais dire, le match, j'en aurais bien pris 3-4 minutes de plus, même.
Parce que il était costaud.
J'ai trouvé Apollo performant, qui a bien fait sortir de ses limites Shinsuke. J'ai trouvé que c'était un combat vachement intéressant, en fait.
Et des beaux near falls, des beaux contres.
Ouais. Il y a eu plusieurs moves qui ont même fait limite croire à la victoire de Apollo, qui a eu un gros moment là, où il a placé un Olympic Slam, quoi, un petit hommage à Kurt Angle au passage là. Et pour le compte de deux, qui a bien fait soulever la foule. Et non, c'était un. Moi, j'ai bien aimé ce combat, quoi. C'était bien sympa. Alors, on a été. Le problème, c'est que tu vois, on ne présente pas est-ce que Apollo Crews va être un contender possible ou pas. Si tu veux, c'est le seul truc qui me pose un petit peu souci dans l'Intercontinental Picture. Là,
c'est la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'on avait, comment il s'appelle, Ali. Ali qui était venu titiller un petit peu Nakamura et qui s'est retrouvé simplement avec une petite vignette. Bah moi, ce que j'aimerais revoir enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une grosse scène de contender autour de ce titre intercontinental et qu'on nous rebalance des matchs à 6 avec des échelles autour du train intercontinental, parce que c'est ce qui fait vivre la mid-card. Et typiquement, on a plein de contenders hyper compétitifs qui peuvent nous proposer des sacrés matchs. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, voilà. Mais plutôt que de faire apparaître des pseudo-contenders une fois par semaine, qu'en fait, ah bah non, c'est pas lui, c'est un autre, tu mets tout ça dans un gros match à 6, avec une échelle, et puis ça te fait un bon match de 15 minutes, et puis ça te remplit des weekly.
Bah ouais, enfin, moi, je peux que te rejoindre là-dessus, de toute façon, quoi. Le Intercontinental, à plusieurs occasions, il a été remis en jeu dans des gros matchs à 3, à 4, à 5, dans des ladder matchs, dans différentes choses, et à chaque fois, ça a donné du spectacle. Hein. Du temps aussi où le Miz et Ziggler bataillaient pour le titre intercontinental, ils avaient souvent Sami Zayn aussi qui venait s'intercaler, ou d'autres comme ça, et ça nous a donné souvent du bon catch. Quoi. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le Apollo Crews de Nakamura. Si tu veux, c'est ce qui m'a étonné, c'est que justement, voilà, il n'y ait pas de... Il n'y a même pas eu, les commentateurs n'ont même pas fait une allusion, tu vois, pour dire « Ah bah tiens, ça y est, Apollo, il va peut-être se positionner, etc. » Non, on a eu zéro allusion, voilà, c'était un match pour le plaisir du match, quoi. Bon, pourquoi pas.
Ah, parce que même dans la défaite, effectivement, bon, le mec a perdu son match, tu ne vas pas le présenter comme un contender, mais tu peux dire qu'effectivement, il ne lui faut pas grand-chose pour le devenir, par exemple, et tu fais enchaîner les mecs comme ça. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine, je ne sais pas, c'est vraiment, je pense que c'est une belle occasion là qu'il faut saisir, parce que je suis un peu saoulé, moi, un peu blasé par ces titres secondaires qui enchaînent les
ouais,
les titres US, c'est pareil, toi.
Oui, c'est vrai que ça tourne toujours entre deux mecs en général, chose d'autre. Surtout que il devrait profiter un peu de la vibe, parce que après, il a fait un petit retour à NXT qui a été bien marqué, où en fait il a été super over auprès du public. Il a affronté Kushida. Et dans un bon match, hein, si vous avez l'occasion de voir, c'était le NXT de la semaine dernière. Donc, si vous avez l'occasion, il y a un Kushida versus...
NXT Réunion.
Voilà, ça a été l'occasion, je pense, pour Apollo aussi de se faire du bien dans la tête, parce que voilà, il a été super bien accueilli par le peuple jaune. Et du coup, il a été plutôt pas trop mal accueilli aussi par le public de Miami cette semaine à SmackDown. Donc, moi, je suis assez pour hein, de donner sa chance à Apollo Crews et qu'il affronte avec l'or en jeu le Shinsuke Nakamura qui semble en ce moment marcher sur l'eau. Quoi.
Les deux mises et de Dolph Ziggler, eh bien merci, c'est sympa puisque c'est la séquence qui a suivi. On a eu un Miss TV avec Shawn Michaels comme invité. Woods et Biggie qui sont toujours aux commentaires, mais plus pour très longtemps, là, ils sont comme des oufs, qui ne seraient pas comme un ouf à danser sur la musique de Shawn Michaels.
Le match où Michaels est très bien accueilli hein, par le Miz. Michaels explique lui aussi, avant, il était jeune et il voulait être comme les légendes. Il était un petit peu jaloux des légendes. Mais tout ça, maintenant, c'est du passé. C'est toute une belle famille. D'ailleurs, une famille qui s'est agrandie puisque la nuit précédente, ils ont accueilli Seth Rollins dans la clique, slash DX, slash ce que tu veux. Donc, c'est vrai que c'était un moment très sympa. D'ailleurs, je crois, tu parlais de Ricochet en off pendant que j'étais parti là. Il y avait des histoires comme quoi c'était Ricochet qui était prévu à la base.
Ouais, c'était ça à la base.
Non, mais ouais, en fait, vous en aviez parlé dans.
On en a parlé pendant la review d'Euro et effectivement, il était blessé, Ricochet, et c'était lui qui était prévu sur le segment, pas sur le segment du Miz TV et tout ça, mais sur le segment du match. Voilà, il était censé affronter AJ Styles et parce que Triple H voulait justement mettre over Ricochet. Non, déplaise à Giscal.
Bon, tout ça de toute façon, c'est la famille, c'est tout ça, ce sont les enfants de Triple H, donc ils sont tous membres de la clique, sans le savoir. Bon, ensuite on a Dolph Ziggler qui arrive, hein, notre petite zigounet là, qui débarque. Il vient insulter Shawn Michaels. Il se dit bah voilà que si je devais finir comme toi, je préférerais qu'on me débranche. Visiblement, Dolph Ziggler en a encore et toujours sur la patate. Lui, avant, il était fan de Shawn Michaels. C'est vrai qu'on les a beaucoup comparés, hein, tous les deux.
Oui.
Mais que il s'est dit bah voilà, Shawn Michaels, à chaque fois le mec qui est revenu. Et à chaque fois, bah, il a foiré, quoi. Donc, il a foiré autant que Goldberg qui revient dans un ring.
Alors, ouais, étonnant, hein, d'ailleurs, ce shoot de Ziggler sur Goldberg, quoi.
Je pense que la WWE a vraiment mal digéré cet épisode de Goldberg, parce que là, clairement, c'est un shoot qui vient d'en haut, quoi, si tu vois ce que je veux dire.
Donc, tiens, je vais faire une petite blague sur Goldberg.
ouais, effectivement. Mais c'est pas les seuls, hein. Ils sont tous un peu shootés les uns les autres. Toi, c'était un peu pareil à NXT du côté avec le bro là.
Matt
Riddle qui s'est fait tirer les oreilles parce qu'il avait dit du mal de Goldberg. Alors, toi. Et maintenant, c'est eux qui en disent du mal, va comprendre un petit peu la logique. Voilà, Shawn Michaels, il embarrasse tout le monde quand il revient. Shawn Michaels d'ailleurs ouvre son cœur et il dit bah voilà effectivement mec je vais pas dire que je suis pas d'accord avec toi, c'était embarrassant. Alors concrètement de quoi il parle à ce moment là est-ce qu'il parle de son match quand il est revenu avec Triple H, est-ce qu'il parle juste de Raw Reunion?
Non, je sais pas. En fait, il fait pas une allusion vraiment claire par rapport au match avec Triple H, je crois pas. Je crois qu'il dit qu'il est d'accord avec Ziggy, que c'était gênant. Mais quand il dit que c'était gênant, en fait, sur le coup, moi, j'ai pas bien pigé s'il parlait par rapport au match de Goldberg ou par rapport à. Bah, je sais pas. J'ai pas trop pigé là à ce moment-là, quoi.
Mais écoute, libre interprétation alors aux auditeurs. Mais il lui met un gros taquet en lui disant que ce qui est le plus embarrassant, c'est que Dolph Ziggler a fait sa carrière comme un Shawn Michaels de division 2. Michaels reste Shawn Michaels et Dolph Ziggler dit attends, tu sais, il n'y a qu'un Shawn Michaels de division 2 ici et je l'ai en face de moi, donc ça envoie les gros shoots. Miz s'interpose et lui dit écoute mec, il y en a ras le bol, t'es toujours en train de te plaindre, si tu dois faire quelque chose, fais quelque chose, si tu veux que ça bouge, c'est à toi de bouger, il y en a ras le cul, je te préviens, ça va mal se terminer. Dolph Ziggler, donc les deux reviennent presque aux mains, quoi, hein, et à ce moment-là, ça se termine avec, je crois, ouais, Miz qui se prend une patate, puis Michaels qui se prend un super kick,
voilà,
dans la tronche,
c'est ça.
Pour clôturer ce segment qui, ma foi, écoute, était très organique. Et il y avait quand même plein de ficelles tirées entre tous ces trois-là. C'est vrai qu'ils sont vachement liés. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah, écoute, j'en ai pensé. Le Miz est situé. Hein, c'est des gars. Ça fait. J'ai presque envie de dire que c'est une feud au long cours, hein, tous les deux. Hein. Ils se suivent depuis tellement d'années. Ils se sont partagés le titre intercontinental pendant plusieurs mois. Donc, je pense qu'il y a une alchimie naturelle qui se passe. En plus, je sais que c'est. Ces deux super potes dans la vie de tous les jours, donc j'imagine que pour eux ça doit être jouissif de faire un segment pareil.
en étant en présence d'un Hall of Famer qui joue le jeu, parce que ça a été, c'est ça qui a été bien avec HBQ, c'est qu'il a, il a vraiment joué le jeu pendant le, pendant tout le segment. Donc c'était, c'était plutôt sympa, c'était assez rythmé. Et puis bah ça se termine de bon aloi, quoi, hein, comme à la, comme tout se termine à la WWE avec des super kicks dans la face et puis des punches, quoi. Et puis voilà, et puis tout le monde, tout le monde est ravi. Donc je pense qu'on va se diriger vers une nouvelle feud encore entre Dolph et le Miz. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont repartis sur un programme tous les deux là. Hein.
Incroyable, hein, qui l'aurait cru.
Ah ouais.
Ils étaient les alignements étaient inversés, hein, lors de leur dernier face à face. C'est bien ça. Hein.
Et oui, Ziggler, oui, c'est ça. Face, ouais, c'était ouais. Qui était le face quoi à l'époque.
Effectivement, de toute façon, les deux là, c'est du coup, et j'ai bien aimé vraiment Shawn Michaels. Ça a été vraiment super. J'ai trouvé, ils ont vraiment trouvé une bonne, comment dire, une bonne, bah, un bon script pour cette séquence promo. Moi, j'étais vraiment à fond dedans. Voilà, Shawn Michaels qui vient un petit peu mettre over une rivalité là, qui vient se bouffer un super kick. On joue un petit peu sur. Effectivement, sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, l'historique entre les gars, les comparaisons qui sont faites, les passages de flambeau, un peu d'humour, voilà, tout ça. Et puis les mecs qui sont à bout de nerfs, tout ça fait que ça repart. Bon, alors ouais, rien de neuf, effectivement. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que Miz versus Dolph Ziggler, c'est du réchauffé. Bah ouais, c'est un peu du réchauffé, mais voilà, c'est des mecs qui ont une vraie alchimie, qui ont une vraie histoire, donc autant capitaliser dessus. Une autre sur laquelle on capitalise vachement, bah c'est Charlotte. J'en avais parlé avec Giscard la semaine dernière. C'était bizarre, hein, cette Charlotte en dehors de la title picture de SummerSlam. Bah elle le dit elle-même. Hein. Un SummerSlam sans Charlotte, c'est comme...
C'est pas normal.
C'est comme un mois de juillet sans canicule. C'est pas normal. Ça ne doit pas exister. Et évidemment, elle a un match ce soir contre Ember Moon. Tout simplement, elle veut montrer qu'elle a sa place. Sauf que Bailey arrive rapidement au début du match et Ember Moon en profite pour choper la victoire en moins d'une minute là. Et à la fin, alors que Bailey et Moon repartent bras dessus bras dessous, et ben Ember Moon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle balance Bailey sur le ring, elle place son éclipse sur les deux et pour montrer c'est qui la patronne. Donc voilà, un ouais. Petit peu, on rajoute un petit peu de caractère à tout ça, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, on était un petit peu circonspect, là. C'est bien beau de nous mettre Ember Moon, mais maintenant il faut rajouter de l'animosité, ben, on l'a eu là, en moins de 3 minutes, emballé, c'était pesé.
Et ouais, on a revu la Ember Moon un peu de NXT là, pendant ces quelques minutes là. Je l'ai retrouvée un peu comme du temps du show jaune, quoi. Donc je suis plutôt content de voir Ember Moon remonter un peu, remonter la pente. Après, on nous fait le coup classique les catcheurs qui sont dérangés par un autre catcheur et que du coup il y en a un, ça le perturbe tellement qu'il perd. Voilà quoi, un grand classique de catch. Mais du coup ça marchait plutôt bien et puis je pense que ça a été fait pour positionner justement Ember Moon un peu là-dedans. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et puis Charlotte. Très franchement, malgré sa défaite et malgré l'éclipse qu'elle a pris dans la face, je m'inquiétais pas beaucoup pour elle, particulièrement par rapport à SummerSlam, mais la suite va me donner raison, en fait.
Un qui a fait une avance rapide là, sur sa carrière, c'est Kofi Kingston. Kofi Kingston, hein, ça fait 11 ans qu'il a galéré pour en arriver là, et il nous annonce tout simplement, parce qu'on savait déjà hein, qu'à SummerSlam, il voudra affronter nul autre que Randy Orton, la vipère. On parlait d'historique, de mecs qui ont une alchimie, de mecs qui sont liés pour la vie. Et ben Kofi et Randy, c'est ça, c'est frère de sang, mais du mauvais sang. Du mauvais sang entre Randy Orton et Kofi, puisque Kofi, lui, explique, il nous raconte un petit peu avec des images d'archives à l'appui, qu'au Madison Square Garden, là, il y a 11 ans, ils avaient eu un énorme match. Et que Kofi lui avait botté le cul, mais que alors qu'il pensait que ça allait propulser sur la scène du main event, ça ne s'est pas arrivé parce que Orton a tiré les ficelles en coulisses, joué de son influence pour enterrer Kofi Kingston, hein, lui mettre la tête sous l'eau. Mais ça n'a pas découragé Kofi Kingston, il a continué à se battre pendant 11 ans, et aujourd'hui c'est lui qui a la ceinture, c'est lui le champion de la WWE poids lourd, et il est temps enfin d'affronter Randy Orton pour retrouver cette place qu'il aurait dû avoir il y a 11 ans. Orton
lui répond que lui, il est au top depuis 18 ans et qu'effectivement, et ça, c'était terrible, j'ai adoré, il lui fait, tu dis que j'ai joué de mon influence pour te nuire, et bah tu as raison, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est pas ma faute, je suis comme ça, je suis juste Randy Orton, c'est comme ça que ça marche, je suis moi, j'ai pas besoin d'avoir un faux accent jamaïcain de balancer des pancakes. Je fais des main events et je gagne et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, tu devrais me remercier, Kofi, parce que c'est grâce à moi que tu es là, puisque c'est moi qui avais blessé Ali. Donc là, en plus, toi, on nous crée du lien. Hein. Tout ça ne vient pas de nulle part. Tu ne mérites pas ce titre et je vais te le reprendre. Donc j'accepte ton match. Avant de passer à la suite, qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse promo qui, bah, écoute, presque, je ne sais pas toi, mais moi, j'attendais depuis un bon bout de temps et je suis plutôt satisfait là.
Ouais, moi je suis un petit peu partagé là en fait, là. Pas tellement par la qualité de la promo parce que l'échange entre les deux était plutôt sympa. Et effectivement, j'ai bien aimé qu'Orton signale voilà, que lui il a pas besoin de pancake, etc. L'accent jamaïcain, rappeler tout ça, c'était assez sympa parce que ça place aussi un peu l'historique entre les deux mecs et puis le fait que là on est face à deux gars qui sont quand même là depuis des années et des années. Donc les retrouver tous les deux.
Ouais. Ça récompense aussi les spectateurs, toi. Hein, fait, ah ouais, toi, les petites anecdotes dont on se souvient.
Ouais, et puis en plus, bon, Kofi, encore une fois, il a droit à une pop phénoménale du public de Miami, là. C'était assez puissant, ça. Et voilà, moi, je veux dire, ce qui me pose problème dans cette histoire...
Dis-nous.
Voilà, c'est le champion qui vient dire, ah bah moi, je veux affronter machin, moi, je veux affronter truc, moi, je veux affronter bidule.
T'aimes pas ça.
Moi j'aime bien quand il y a de la compétition et là il y a pas de compétition quoi. C'est le mec qui choisit et c'est le champion qui choisit. Il y a aucun match qui définit un number one contender. Il y a pas un petit tournoi. Il y a pas, je sais pas moi, un four way. Tu vois, il se passe. Ça se joue juste sur une promo et en plus c'est le champion qui provoque cette promo pour choisir son adversaire. Donc ça, moi, je t'avoue que moi je suis pas un super fan quoi. Moi j'aime bien quand il y a un peu de compète et là pour le coup bah là-dessus on en aura pas eu du tout quoi. Donc ouais. Après, effectivement, au vu de l'historique entre les deux mecs, ça nous annonce un match sympa, quoi. Mais bon, du coup, bah, ça fait quand même que Randy Orton se retrouve encore une fois dans le main event, encore une fois dans la title picture principale. Donc bon, je pense que ça va être assez clivant. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont adorer et puis il y a des gens qui vont totalement détester ça. Hein, parce que je pense qu'il y a des gros haters de Orton. Heureusement, tout le monde ne déteste pas Ricochet comme Giscal. Mais il y en a aussi qui détestent Randy Orton. Bon,
alors ceux qui détestent Orton, est-ce qu'ils vont pas justement kiffer le fait que l'Orton qui déteste va affronter Kofi Kingston, qui justement est un petit peu la victime depuis tout ce temps-là de Randy Orton. Et si, ouais. Si on a un beau payoff qui est que Kofi bat Randy Orton à SummerSlam, je pense que tout le monde va être content à la fin.
Oui, voilà, c'est un espèce de truc, c'est la catharsis, quoi. C'est l'explosion face à la victoire de Kofi devant l'ennemi juré depuis tant d'années. Donc, écoute, ouais, ça passe bien de toute façon. Moi, je note quand même, j'ai trouvé vraiment Orton vraiment bon au micro. Et Kofi, écoute, je pense que c'était peut-être l'une de ses meilleures promos depuis qu'il est champion, quoi. Si c'était pas la meilleure, en tout cas. Ouais, c'est vrai que parce que dans cet exercice-là, il est pas toujours génial. Et mais là, pour le coup, il était seul, pas de New Day autour de lui et tout. Et il a, ouais, bon exercice de style entre les deux.
Bon, de toute façon, tout ce petit monde ne se quitte pas tout de suite, puisque en fait, on a Samoa Joe, toi. En vrai, de la compète, tout est de la compète. Samoa Joe, il veut de la compète. Bon, Samoa Joe, il cherche la compète, mais il gagne pas. C'est ça qui est un peu dommage. Mais Samoa Joe débarque et ça intrigue un petit peu Randy Orton qui décide de rester pour regarder le match. Il a raison, après tout, autant profiter. Il l'a dit, hein, il utilise son influence. Ben là, après tout, s'il veut regarder un match depuis le ringside, il peut le faire. Donc on a un match assez costaud, assez solide entre les deux. Même si ça reste assez classique, hein, mais il y a toujours l'intensité de Samoa Joe. Kofi Kingston est là, il saute dans tous les sens, mais on a une intervention de Randy Orton qui débarque, provoque la disqualification. Je sais plus qui c'est qui l'attaque d'ailleurs, Randy Orton. Personne en fait, si.
Bon, il vient se mettre, il vient se mettre au milieu.
Il essaye de placer en fait un RKO sur Kofi, mais Kofi l'évite
Et du coup, les deux restent un petit peu comme des cons. Samoa Joe se relève, veut attaquer Randy Orton, sauf que Randy Orton lui fout un RKO. Et après, Kofi Kingston place son Trouble in Paradise pour étaler Randy Orton pour bien montrer que c'est le Trouble in Paradise qui est le finisher le plus létal, comme tu aimes le dire, du moment. Le c'est RKO, clair. C'est fini. Quoi qu'on en dise, il redescend dans la chaîne alimentaire. Et voilà,
on a un bon match. Un beau selling de Joe sur le RKO.
Il est cherché. Hein.
Ouais. Et puis Joe, c'est quand même un sacré gabarit, quoi. Donc il faut le mettre. Hein, donc Joe.
Passer de la position verticale horizontale avec une incroyable facilité, alors que bon.
Ouais, mais il est agile, hein, Joe. Hein. Il paraît pas comme ça, mais en fait, il est vachement agile. Et puis en fait, c'est un mec qui est habitué en plus à combattre des gars d'un gabarit cruiserweight, on va dire entre guillemets. Et du coup, non, Joe, c'est vrai que en fait, tu l'as dit au tout début de ta présentation, mais c'est vrai que Joe, lui, il cherche de la compétition, lui, il fait des matchs, il n'était pas plus tard que la veille à Raw, il avait un match face à Roman Reigns, le lendemain, il a un match face à Kofi Kingston, mais voilà, Joe ne fait que perdre, sans arrêt, c'est incroyable, hein. C'est, à part la petite ellipse avec le titre US, là, qu'il a eu pendant vraiment pas longtemps, mais qu'il a eu quand même, mais sinon, c'est incroyable le nombre de matchs que peut perdre Samoa Joe à la WWE. C'est assez terrible. Je pense qu'à la TNA, ils doivent bien rigoler. Quoi. Quand tu penses qu'à la TNA, il a eu une streak d'invincibilité qui a duré je ne sais plus combien de temps. Mais à la WWE, c'est un peu tout le contraire. Il passe son temps à perdre. Mais c'est marrant parce qu'il ne perd aucune crédibilité en même temps. Tu vois, et il a la même pop-up.
Les gens le comparent, commencent à le comparer de plus en plus à des mecs comme Mark Henry, toi. Des gros costauds qui peuvent être menaçants à tout moment parce que c'est des mecs qui sont c'est des sacrés gabarits de base et qui peuvent à tout moment. Mais c'est vrai que ça commence à être un peu long, mais de toute façon, c'est difficile hein, pour tous ces mecs de NXT là, à trouver leur place. Et lui, il est clairement plus là pour mettre over des top babyface que pour. Être lui ouais, c'est ça. En haut de la chaîne alimentaire. Quoi.
Ouais, je pense que de toute façon, clairement, en plus, c'est quand même un vétéran, Samoa Joe. Donc, je pense que oui, effectivement, il est dans ce rôle pour mettre over les babyface, comme tu dis, et c'est il le fait bien, moi, je trouve qu'il le fait bien. Joe, moi, je le trouve super crédible. Et puis, voilà, c'est exactement comme Mark Henry, t'as tapé dans le mille. C'est un mec, si demain il revient et puis qu'il chope le titre suprême, on n'en sera pas choqué, en fait. Parce qu'on se dit, ah bah ouais, il est dangereux, quoi. Il est dangereux, ce mec-là. Donc, bien sûr. Il a eu une mauvaise passe, mais là, bim, bah voilà, il a décidé de repéter des gueules et puis de récupérer de l'or. Et puis, bah voilà, il y est arrivé. Donc, on ne sera pas choqué outre mesure si demain, Joe retrouvait le main event et puis chopait de la ceinture, quoi. Donc,
c'est comme ce mec qui cherche tout le temps la bagarre dans les bars, dans les soirées et tout. Des fois, c'est lui qui en met des bonnes et des fois, il s'en prend dans la tronche. Mais c'est pas grave, tu le revois le lendemain au même bar à chercher les ennoises à d'autres mecs, quoi.
Avec le patron du bar qui dit « Mais t'es revenu, toi ?»
C'est ça. Mais t'as pas compris la dernière fois ? Non, j'ai pas compris. Compris quoi ? Et pouf, pif, paf, allez. Ouais, je disais une stat, là. De tous les anciens champions NXT, il y a seulement trois superstars qui ont un bilan positif de victoire-défaite dans les pay-per-view du main roster. Est-ce que tu saurais deviner lesquels ? Les champions fou, NXT.
Trois, il depuis... y a seulement trois. Depuis 2012, depuis la création de la nouvelle mouture NXT, tu veux dire ? Ouais.
Depuis la création du titre, donc la nouvelle mouture NXT, donc et le sacre de Seth Rollins à l'époque.
Putain, c'est incroyable, quoi. Bah dans les trois déjà.
Pay-per-view, hein, des victoires en pay-per-view au main roster.
La vache, et bah écoute, je dirais Seth Rollins pour le coup.
Et Seth Rollins, 62%.
62% Seth Rollins, la vache.
Gagné 45 matchs en pay-per-view, ce qui veut. Déjà, je me dis, mais le mec, il a depuis une blinde, quoi, parce qu'il est là alors qu'il était blessé. 45 victoires, 27 défaites et un match nul, visiblement.
D'accord. Attends, c'est incroyable, ça. Il y a seulement 3. C'est surtout le chiffre de 3. En fait, après, finalement, peu importe le catcher, c'est là que tu te dis que vraiment la montée dans le main roster est vraiment, vraiment compliquée. Quoi. Que la Big League, c'est vraiment à Raw et SmackDown que ça se passe et pas à NXT. Hein. Moi, j'adore NXT. Hein, mais par contre, moi, j'ai toujours considéré que c'était la brand de développement et que fatalement, on pouvait difficilement en fait, faire des comparaisons avec le main roster et avec NXT.
Et totalement puis, un univers parallèle.
Ouais, et finalement, ce que tu dis, bah, ça rejoint complètement ça. Hein, voilà, le fait qu'il n'y ait que trois mecs. Et vas-y, dis-moi, du coup, les deux autres gars, c'est qui à part cette
deuxième, il est toujours là. D'ailleurs, on va en parler juste après. Hein. C'est un mec qui a un peu un souci de double personnalité.
Ah, d'accord, ok.
Et le Finn Balor.
D'accord.
Bah alors, 60% de victoire, 12 à 8.
Ouais. Ah, grâce à lui.
Voilà, donc j'imagine qu'il a dû apparaître 12 fois déguisé, enfin avec un peu de peinture sur la tête. Et le troisième, alors celui-là, tu vas pas le trouver, c'est Neville.
Oh!
60% aussi, mais bon, après, c'est pas des mecs qui ont enchaîné beaucoup de matchs. Il avait gagné 6 fois et perdu 4 fois.
D'accord.
Après, des mecs qui sont pas trop mal situés, c'est Kevin Owens, qui a 43% de victoire.
Ah ouais.
Biggie qui a 40%. Biggie, mais grâce au New Day, hein, toi.
Oui. Et où tu trouves ces stats-là? Ça m'intéresse, ça.
C'est sur Reddit, sur Squared Circle, tu sais, sur Reddit. T'as toujours des mecs qui balancent des anecdotes, et je tombais là-dessus la dernière fois, et j'ai fait, tiens. Et devine qui a le plus faible pourcentage.
De victoire?
Ouais.
Des anciens NXT, tu veux dire?
En l'occurrence, un mec qui a 0 victoire en pay-per-view et 5 défaites. Donc il est récent, il est jeune.
Apollo Crews, non? Andrade.
Apollo Crews n'a pas été champion NXT.
Ah non, Apollo Crews n'a pas été champion
NXT. Andrade, tu l'as deviné, c'est Andrade. Ah,
c'est Andrade, d'accord. Putain, Andrade, il n'a pas gagné un seul match en pay-per-view. Ah, c'est triste quand même, ça.
Ah, c'est un peu triste. Après, il a souvent été mis dans des matchs pour des titres et tout. Du coup, sans pour autant qu'on lui donne, c'est pareil, c'est pour faire briller les mecs en face, toi. Donc.
Et pourtant,
Drew McIntyre, c'est sale aussi, hein, il est à 20%. Hein. Deux défaites, deux victoires, 8 défaites. Hein.
Oh la vache, putain, c'est fou ça.
Chaud pour McIntyre. Hein. Je veux bien qu'on attende, qu'on continue d'attendre pour lui, mais. Bon, après, tout ça, ça veut rien dire, hein, parce que Giscal va nous ressortir le ratio de victoire de Roman Reigns, qui effectivement est pas forcément joli. Donc tout ça, ça veut rien dire, mais bon, il y a quand même des trucs, ça fait un petit point de départ pour discuter. On va continuer si tu veux bien, puisqu'on s'approche gentiment du main event. Mais avant ça, on a Finn Balor. Je vous parlais de Finn Balor, 60% de victoire en pay-per-view. Mais la dernière fois, il s'est fait retourner le cucu par Bray Wyatt. Bray Wyatt qui est arrivé donc en clown démoniaque. Là, il est interviewé par Kayla qui lui dit « Bon alors, c'était un peu difficile là ces dernières semaines. Tu as perdu ton titre intercontinental et Bray Wyatt t'a attaqué. » Fait « Ouais, effectivement, je sais pas trop ce que Bray Wyatt a dans la tête. Est-ce que ces marionnettes font là pourquoi il a attaqué Folie la dernière fois ?» J'ai aucune explication. Je sais pas si il revient chercher solder des vieux comptes ou en faire des nouveaux. Ça, je trouve ça pas mal parce que voilà, ça rappelle un petit peu leur rivalité qu'ils avaient eue, un petit peu une rivalité qu'on aurait aimé oublier. Ceci dit, et Bray Wyatt apparaît à l'écran. Bray Wyatt apparaît à l'écran puisque Finn Balor veut affronter Bray Wyatt à SummerSlam et c'est Bray Wyatt mais en version la Firefly Funhouse. Hein. Qui nous accueille. Ouais. C'est notre Bray Wyatt, présentateur d'émission jeunesse. Il explique que lui et les marionnettes sont des grands fans de Finn Balor, mais pas The Fiend, donc pas le clown maléfique. Non, le clown maléfique, lui, il n'est pas fan du tout de Finn Balor, et le clown maléfique accepte le challenge à SummerSlam. Et du coup, on aura un match qu'on n'était pas forcément sûr d'avoir. Moi, j'étais pas certain. Je pensais que Finn Balor allait partir en vacances. Mais non. Grosse affiche, quand même, je trouve, déjà, pour Bray Wyatt, là, affronter Finn Balor à SummerSlam. On lui donne pas du jobber pour commencer. Et c'est pas mal, ça. Ça nous change un petit peu.
Ouais, c'est bien, ouais. Moi, je suis pas mécontent. Bon, après, j'espérais. Le seul truc, c'est que j'espérais quand même que le clown démoniaque, il allait être balancé dans du très, très lourd. Et finalement, ils ont choisi Baylor.
C'est mal déjà.
C'est peut-être pas mal malgré tout. Quoi. C'est quand même. Le truc, c'est que voilà, on n'a pas mis. Ils ont fait le choix, en tout cas, de ne pas mettre Bray Wyatt dans une feud avec une ceinture en jeu.
Ils ont attendu le temps.
Dans une première feud intermédiaire. C'est peut-être. Je pense que c'est certainement pas mal pour construire le personnage. Et après, moi, je vais être un enthousiaste à mort parce que j'ai adoré le segment, en fait. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé génialissime le fait que quand Baylor a arrêté de parler, que ce soit le petit entron qui s'allume et que ce soit Wyatt qui apparaisse dans sa version Firefly. Et puis qu'au fur et à mesure du segment, il joue vraiment bien le truc, quoi. Et au fur et à mesure, il a un jeu au niveau du regard et tout ça que je trouve assez super, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Et qu'en fait, il parle au nom du clown maléfique. Et alors qu'on sent qu'en lui, en même temps, ça boue, tu vois, quoi, à l'intérieur, quoi, et vraiment, hein, moi, j'ai trouvé ça génial. Et ouais, ça a été un très bon moment de ce SmackDown, j'ai trouvé. Ça a été assez. Oui. Mais c'est très bon avec le Let Me In pour finir et puis finalement le film qui apparaît à l'écran. Et ben j'ai trouvé que c'était super bien foutu.
Ouais, d'ailleurs il dit que donc The Fiend, donc ce clown là, lui il se souvient, donc il y a vraiment ce côté ce Bray Wyatt là de la Firefly Funhouse, c'est vraiment le mec qui pardonne, qui a conscience du passé et qui passe à autre chose, qui a appris de ses erreurs. Mais au fond de lui, il a ce fameux clown maléfique là qui lui se souvient et qui veut se venger visiblement. Donc ça peut être une story pas mal hein, de venir chercher des noises peut-être à tous ces mecs à qui il en a eu après à l'époque où il était gourou. Donc tout ça est assez intriguant. Moi, ce qui m'intéresse aussi vachement, ce sera l'issue de ce match un petit peu. Toi, qu'est-ce que ça va vraiment démarrer par rapport au personnage? Comment le personnage en fait se traduit dans le ring évidemment, mais après qu'est-ce qui arrive au mec qui rencontre, toi? Est-ce qu'il les démolit? Est-ce que toi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est
avec le mec
vachement intriguant.
Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y a plein de pistes ouvertes avec le nouveau personnage de Bray Wyatt et que moi, en tout cas, je suis hyper client du masque et tout ça. Voilà, le peuple de Ketchup connaît mon amour immodéré pour les masques, mais je trouve génial que vraiment ils utilisent cet artifice à plein. Et vraiment, c'est un personnage en plus qui peut être sur la durée. Ça, c'est important, quoi, parce qu'en catch, c'est souvent un peu difficile. Et là, pour le coup, Bray Wyatt, là, il a trouvé un personnage qui peut vraiment durer dans le temps. Et vraiment, 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 il m'arde de voir déjà ce qu'il va donner dans le ring. Et puis, il me tarde de voir sur quel genre de rivalité ils vont le lancer. Quand ils en auront fini avec Bella.
Ouais. Bon. À qui on n'en a pas fini, c'est Shane O'Mac, hein, puisqu'on le retrouve ce soir en Special Ring Announcer. Ça me fait marrer parce qu'il se fait annoncer. Le Special Ring Announcer se fait annoncer. Ça, c'est trop cool. Elle a celle-là avec Drew, Drew McIntyre, à qui l'uniforme d'arbitre sied parfaitement. Ils ont dû vraiment faire du sur-mesure, là, parce que c'est pas possible. Il n'est clairement pas le gabarit des arbitres habituels. Roman Reigns, Kevin Owens sont là. Ça se bagarre, mais très rapidement, ça intervient dans tous les sens. Drew fout le bordel en tant qu'arbitre. Kevin Owens se débarrasse d'Elias. Ça se trash talk dans tous les sens. Shane se retrouve sur le ring également. Les heels donc attaquent Roman Reigns et Kevin Owens. Mais voilà, tous les gentils prennent le dessus. Super kick. Sur Drew et Elias, un gros spear et à la fin un stunner. Shane est mis sur le ring. Tout ce beau monde se regarde, la Roman Reigns, Kevin Owens, il y a de la testostérone. En veux-tu, en voilà. Superman punch, le stunner. La foule est en délire. Kevin Owens stun une dernière fois Shane O'Mac. Pour le plaisir de la foule, est-ce que c'est également pour le plaisir de Chris?
Ouf, je sais pas. Vraiment exceptionnel, mais je vais redonner encore un bon point à Shane, parce que alors sur le stunner, autant Elias, mais il a super mal vendu le stunner de KO, autant Shane, et bah sur les deux, il en prend deux, hein, il prend deux stunners et il les vend super bien, quoi. Donc là vraiment là-dessus,
je vais pardonner de la dernière fois.
Je lui donne un bon point parce que là vraiment vraiment super super truc. Alors au début, écoute, ça se lançait un match Roman Reigns KO, mine de rien, c'est quand même un petit bonbon, c'était plutôt sympatoche, quoi. Moi, j'étais plutôt content de les voir s'affronter, même si on sentait que les deux, ils étaient pas au taquet l'un contre l'autre, quoi. Que KO, il cherchait un peu à taper de la discute, c'était un peu complexe. Et puis avec au milieu, avec comme tu l'as dit, avec Drew McIntyre qui faisait un arbitre un peu particulier quand même. j'aimais bien, il venait se mettre dans le turnbuckle, il se mettait entre les deux, puis il poussait quand même un peu fort, quoi, tu vois, quoi. C'était assez sympa, quoi. Et puis bah ça part en couille, parce que de toute façon c'était sûr que ça allait partir en couille cette affaire, mes amis. Voilà, quoi. Donc évidemment ça s'est lancé dans tous les sens, et puis un match comme ça de toute façon ne peut que finir en vrille, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Et puis vraiment KO, il est dans un état de nerf avec cette histoire de Shane là, c'est parce que il trouve quand même à la fin, il trouve le moyen de rechoper un micro et de dire que bah voilà, que ce soir c'était rien, quoi. C'était rien par rapport à ce qui allait se passer à SummerSlam, parce que il allait démonter Shane comme personne n'avait jamais vu Shane se faire démonter. Donc moi j'attends que KO tienne ses promesses.
Ouais, non, clairement, on tient un super babyface, effectivement, à la Stone Cold, évidemment. Enfin, là, il n'y a même pas besoin de justifier la comparaison, mais il a une énergie de ouf. Et j'ai trouvé, grosso modo, dans tout cet épisode à SmackDown, là, depuis quelques semaines, ils ont tous retrouvé une énergie ou un plaisir un petit peu d'être ensemble, de s'affronter, de se balancer des grosses punchlines. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'en coulisses, ça se passe mieux ou est-ce que, je ne sais pas.
Ouais, avec l'histoire de la White Card Rule, il y a quand même eu quelques SmackDown qui étaient un petit peu moyennasses hein, ces dernières semaines.
Ouais, non, mais je te parle des deux, trois dernières semaines, pas plus. Hein. Là, vraiment, on commence seulement à retrouver un petit peu un semblant d'ossature et des mecs qui ont vraiment de la chimie, qui ont du temps et les scripts sont meilleurs. Ouais, ouais. Les scripts sont meilleurs. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus libres. Ou est-ce que toi, entre la. On va arriver au mot de la fin, du coup, entre ce qui s'est passé à Miss TV et puis Kevin Owens qui fait un petit peu ce qu'il veut, à mon avis, là, il est au taquet. On a quand même des bonnes grosses promos et du catch qui est au minimum solide, toi. Il n'y a peut-être pas des choses stealer chaque semaine, mais c'est toujours assez costaud.
Kevin Owens, il a une liberté comme rarement on a vu hein, depuis qu'il est là. Hein.
Je lui ai donné une carte blanche là.
J'ai rarement vu avoir autant de liberté au micro que ces derniers temps là. Kevin Owens, c'est un catcheur génial. Hein. Franchement, ce mec, il est aussi bon en heel qu'en face quoi. Qui passe de l'un à l'autre, bah y a pas de problème quoi. Il est
ce genre de face quoi. Ce face qui veut tout casser.
Ouais. Non, mais il est vraiment. Enfin moi vraiment, Kevin Owens, il m'impressionne tout le temps parce que. Voilà, il peut changer de personnage, il peut changer d'histoire, il peut changer, il n'y a pas de problème, il s'adapte. Et c'est vraiment une des pépites du roster quand même. J'ai un Kevin Owens, il n'est pas à la IW, il est à la WWE et c'est pas pour rien quoi, hein, parce que il fait partie des tout grands hein, quand même dans ces années 2010-2020 là. Pour moi, il fait partie des grands catcheurs. Alors au début, quand j'ai commencé à connaître ce mec là, je le comparais souvent à Bam Bam Bigelow. Pour les je trouvais qu'il avait dans le moveset et dans le même physiologiquement tout ça quoi, je trouvais qu'il me faisait beaucoup penser à Bam Bam Bigelow, mais par contre au micro il est c'est pour moi c'est un des meilleurs actuels quoi, au micro quoi, voilà quoi, KO tu lui donnes le micro et bah quoi qu'il arrive tu sais que ça va être du bon qui va arriver quoi.
Micro c'est boum boum bungalow plutôt.
pas mal.
Bon écoute, on arrive au mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, Chris, dis-nous tout.
Alors, ouais, ma note va super haute parce que c'était pas mal, mais je peux pas. Je vais mettre un 3, ma note, quoi.
Ouais, ah là là.
Ouais, non, mais je change pas ma note. De toute façon, non, mais je me suis marré parce que Giscard nous a mis un 3,75, lui, pour le SmackDown. Donc, tu vois, quoi. Moi, je mets un 3 parce que j'ai trouvé que c'était un épisode sympa, mais voilà, sans plus, je peux pas dire que ça m'a plus emballé. J'étais plus chaud lundi soir face à Raw, mais bon, je pense que parce que le Raw, c'était un épisode un peu exceptionnel avec le EHPAD Time, là. Et du coup, c'était assez sympa et ça a donné pas mal de segments assez sympas. Mais par contre, tu vois, je mets un 3, mais j'ai eu un peu le même problème que Arrow. Arrow, j'ai eu du mal à trouver un flop. Et là, en fait, dans cette...
C'est un peu le cas pour beaucoup d'épisodes en ce moment. On a du mal à trouver des gros flops, quoi.
Dans cet épisode de SmackDown, j'ai un peu du mal à trouver un flop véritablement, quoi. Tu vois, quoi. Vraiment, il faudrait vraiment que je gratte un peu pour donner un flop. Alors, je vais mettre le flop, je vais le mettre justement à un segment dont on a peu ou pas parlé, je crois. C'est le fait que Mandy et Sonya Deville obtiennent un combat contre les Iconics. Voilà, ça sort de nulle part. Tout d'un coup, tiens, on va leur donner. Alors, il va falloir me préciser parce que j'ai eu un doute sur le fait de est-ce qu'on leur donnait un shot, un title shot, ou est-ce qu'on leur donnait un combat qui pourrait peut-être éventuellement leur donner un shot. Donc les amis dans les commentaires, si vous pouvez me donner la précision, parce que moi je suis pas sûr de moi sur ce coup-là.
Ouais, donc, non, effectivement, c'était pas clair.
Ouais, c'était pas clair. Est-ce que c'était un match de contender ou un match ou une véritable opportunité, un véritable title shot? Ah, c'est pas un shot. Heureusement, en direct, on a un commentateur qui nous parle. Donc voilà, bah, je peux vous dire en direct. Donc effectivement, c'est pas un shot. Et donc effectivement, c'est bien un match qui peut-être, si elles le gagnent, leur donneront un title shot. Donc voilà.
J'ai l'impression que ça fait des semaines que c'est ça. Hein. Bon.
Ouais, c'est un peu ça, ouais, voilà. Et puis, du coup, mon top, je vais le donner au main event parce que moi, j'ai trouvé vachement sympa ce bordel organisé. Et avec un gros match, avec un Kevin Owens énorme, avec un Roman Reigns comme je l'aime. Voilà, donc du coup, le main event, le SmackDown terminait de belle manière et du coup, c'était assez sympa. Donc, je vais donner mon top au main event.
Ok, bah écoute, moi, mon top, c'est le petit Miz TV, là, j'en ai eu plein des tops, en fait. Toutes les promos, pour moi, étaient au top. Donc, j'en prends une parmi toutes, mais j'ai beaucoup aimé Miz TV, là. C'était un super épisode, j'ai trouvé. Shawn Michaels, qui a vraiment a servi à vraiment à quelque chose. Si c'est toujours un plaisir de le revoir, mais voilà. En flop, j'ai pas de gros flop non plus. Je vais mettre tout simplement ce flou artistique là qui entoure le titre intercontinental avec la petite vidéo de Ali. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut à faire des vidéos dans ces escaliers alors qu'il était venu titiller Nakamura il y a une ou deux semaines. Je pense qu'on peut faire un truc beaucoup plus simple, c'est de faire ces mecs-là un petit peu plus se croiser et de faire une belle scène autour du titre intercontinental. Et ma note, eh ben pour moi, c'est un 4, parce qu'on était bien focus là sur SummerSlam. On a eu des grosses promos qui ont confirmé ou voire ouvert des programmes là pour SummerSlam. On a eu du catch qui était, ma foi, assez costaud. Donc c'est un bon 4, ça y est. Je reviens enfin à mettre des 4 à SmackDown, ça fait plaisir. Donc, c'est super encourageant pour la suite. Quoi. On est chaud, il n'y a pas besoin d'avoir une canicule, il suffit de regarder Raw et SmackDown. Enfin, ça dépend du public, mais en tout cas, là, cette semaine, on était plutôt gâtés à différents niveaux. Du coup, c'est l'heure de l'autopromo, comme Rafa aime le dire. Catch Up, évidemment, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE. C'est très simple pour nous suivre. Il suffit de vous abonner, hein, soit à Spotify, iTunes ou PodCloud pour l'audio, même sur YouTube pour la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à balancer des commentaires. Dites-nous votre top, votre flop et votre note à l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de mettre des notes, parler de catch-up autour de vous. Il y a un petit lien vers notre Discord. Si vous voulez taper la discute avec Giscard, lui dire que ce mec est fou à vouloir mettre des 5 à des shows avec que des vieux, n'hésitez pas à venir le lui dire en face à face. Je te remercie, Chris, de t'être prêté à l'exercice, d'être venu nous rendre visite là, à la Maison Bleue. Tu es toujours le bienvenu.
Eh ben, merci à toi. Ça m'a fait plaisir, Irène, de commenter ce show avec toi. Quoi. La road tour sur Slam est lancée.
Ouais, elle est lancée, ben, elle est bien lancée. Et ben, on va la prendre ensemble, si vous voulez bien, cette route-là. On va faire un beau covoiturage tous ensemble avec tout le peuple de Ketchup. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
IRM, salut peuple de catch-up, salut jeune junior. Bon ben voilà, mais c'est fini en fait là. IRM, c'est parti, il est parti.
Faudrait que je comble les peuples de catch-up, vous voyez. On a des chroniqueurs qui sont des pères de famille respectés et respectables. Et du coup, voilà, il accourt. Quand un enfant pleure, c'est pas beau ça. C'est un babyface en fait, Irem. Faut pas croire ce que dit, je sais pas moi, Giscard par exemple, je sais pas, juste comme ça. Mais en fait, c'est un babyface, Irem. C'est un bon père de famille. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que Giscard est un heel, hein, parce que c'est pas vrai, hein, vous le savez tous. Giscard, c'est certainement le chroniqueur le plus enthousiaste de l'histoire de tous les podcasts de l'univers, donc on aurait du mal à transformer Giscard en top heel. Ringside a des petits côtés top heel par moment, mais hier il a mis une bonne note à Raw, comme quoi hein, des fois on change.